c'est à toutes les écoles abyssarines tous les derniers jeudis du mois, ici au sein du comité Mamega. Le comité Mamega, qui est une structure qui lutte contre l'illettrisme et l'exclusion en général. Aujourd'hui, nous allons parler du groupe de veille et des pouvoirs d'agir des habitants avec un point d'interrogation. En présence de Fadela. Fadela, qui est une habitante du quartier, en même temps, qui est pas présidente, mais trésorière d'une association qui s'appelle
Arc-en-Ciel.
Bonjour Fadela.
Bonjour.
Céline, qui est une habitante du quartier qu'on n'arrête pas de voir dans le quartier, qui est vraiment une militante. C'est vrai, c'est important de le dire. C'est vrai que tu es dans tous les combats du quotidien.
On est un peu partout, ouais.
En tout cas, merci d'être là. Et en même temps, administratif du centre social Agora.
C'est ça, oui.
Voilà. Rania, bonjour.
Bonjour.
Salariée du centre social Agora.
C'est ça.
Et en plus, présidente bénévole
de l'association À la Fou.
Voilà. Yamina, présidente de l'association des locataires de Saint-Barthélemy 3.
Oui, exactement.
Voilà. Et Bertrand, administrateur.
Administrateur à l'association locataire et à l'Agora.
Juste avant d'attaquer le sujet concernant le groupe d'éveil, je vous invite d'aller sur le site du vivreensemble.org qui parle un petit peu du travail qu'on fait au sein du comité Mamega et avec l'ensemble des partenaires du collectif du Grand Saint-Barthélemy. C'est important de soulever ce problème-là parce que sans le collectif, on ne peut pas avancer dans ce quartier-là. Moi, je trouve que c'est important de soulever. Fadela, le groupe de veille, comment il a été créé ?
Alors, le groupe de veille a été créé à la suite d'un événement malheureux à l'école de la Busserine. En fait, c'était des toxicomanes qui avaient été retrouvés dans les locaux, dans l'école primaire.
D'accord.
Donc, du coup, l'association de parents d'élèves, les parents d'élèves et les habitants se sont regroupés avec toutes les associations volontaires du quartier au centre social Agora afin de trouver des solutions ensemble. De ce mouvement est né le groupe de veille et du coup on s'attaque à tous les problèmes du quartier qui ont été relevés depuis, la fusillade, les problèmes de travaux, etc. Et puis on est resté.
Juste pour dire, ça fait combien de temps le groupe de veille a été créé ?
Ça fait fin 2016, ouais. D'accord. Voilà, à peu près 2 ans. Ouais.
D'accord. Céline, je vais te passer la parole. Le groupe de veille... Ça te parle parce que
moi je suis administrateur depuis plus de 10 ans au centre social Agora. J'ai été cooptée dans un groupe qui s'appelle Habitants l'épreuve du trafic. Donc la présidente de parents d'élèves à l'époque fait partie de ce groupe. Donc quand il y a eu cette problématique au sein de l'école, elle a directement alerté les membres du groupe Habitants l'épreuve du trafic. Et de là, on s'est réunis avec les associations de quartier pour créer ce groupe de veille, en fait. Voilà. C'était une problématique due au réseau de drogue. Donc, elle savait qu'on avait fait une expertise par rapport au groupe Habitants l'épreuve du trafic et qu'on pouvait trouver des solutions. Sachant que le groupe Habitants l'épreuve du trafic est un groupe fermé qui n'est pas un groupe d'action, en fait. C'est un groupe de parole. Et donc, ils ont décidé de créer un groupe d'action qui est le groupe de veille.
Et le groupe de veille, il est compris avec les habitants et des structures associatives.
Déjà, il y a toutes les associations du quartier qui sont très unies, déjà, il faut le dire, hein, parce que on travaille en commun. On fait un travail en commun avec le groupe Adélis, qui est un groupe de médiation de quartier, la Régie 13, la DAP, le Bus 31-32, l'association Réseau 13, vraiment toutes les associations du quartier qui sont groupées, le comité Mamega aussi fait partie du groupe de veille. Voilà. Donc on travaille tous en commun, on fait des réunions régulières. Et d'abord pour voir les rumeurs qu'il y a, il est tué, savoir vraiment l'information, la vraie information, et après travailler sur la vraie information. Voilà. Sachant que ce groupe de veille n'est pas subventionné, puisque nous ne voulons pas de subvention pour le moment, dans le sens où nous voulons avoir une liberté d'action et de parole sur les problématiques du quartier. Donc on s'occupe de toutes les problématiques du quartier, en fait, d'accord, que ce soit de drogue ou autre.
Dans le groupe de veille, Yamina, je vais te passer la parole. Toi, comment tu es rentrée dans le groupe de veille? Comment ça s'est passé?
Ben, écoute,
en tant que habitante
et humaine, voilà, en voyant la déchéance où le quartier descend, hein, parce que c'est une réalité, on est en train de descendre au fur et à mesure, on va vers le bas au lieu de monter vers le haut. En tant qu'humain, je me suis sentie concernée par tout ça. Et puis, j'y suis rentrée.
D'accord. Quand on dit pouvoir d'agir des habitants, c'est quoi le pouvoir d'agir des habitants?
Le pouvoir d'agir des habitants, en fait, c'est nous avons un laisser-aller au niveau des institutions.
Et est-ce qu'ils ont le pouvoir?
Alors oui, bien sûr, les institutions ont le pouvoir, mais maintenant, est-ce que les institutions donnent ce pouvoir? C'est autre chose. Donc nous, au vu de la lenteur des pouvoirs publics par rapport aux travaux, par exemple, je vous cite un exemple, on a eu des problèmes de ramassage de seringues dans le quartier, donc on a fait appel aux institutions qui nous renvoyaient la balle à chaque fois. Il y avait un problème de domanialité, c'est-à-dire les gens ils nous disaient ben écoutez par rapport aux travaux ben c'est plus nous qui nous en occupons, c'est voyez l'autre service, ils nous renvoyaient la balle à chaque fois. Donc nous on en a discuté au fur et à mesure du temps, et on a fait appel au bus 31-32 et à l'association Réseau 13 qui a trouvé une solution de ramassage une fois par semaine. Donc c'est venu de nous, en fait, de l'union avec les associations, on trouve des solutions. Mais c'est vrai qu'on a besoin des institutions, on en a énormément besoin, parce qu'on a besoin d'un soutien. Et comment dire, on a créé ce groupe de veille parce que on se sent abandonné par les institutions, en fait.
Je dis ça, pourquoi le pouvoir des habitants? Parce qu'il y a de plus en plus d'habitants dans le groupe de veille. C'est ça qui est important.
Mais exactement, il y a de plus en plus d'habitants parce que les habitants, ils se rendent compte de la déchéance du quartier, du laisser-aller, les travaux qui n'en finissent pas. Vraiment, on a besoin de vivre dans la sécurité, dans la dignité, dans le respect. Et ce n'est pas le cas. Actuellement, ce n'est pas le cas.
Rania, je voulais te poser une question en tant que, pas salarié du Centre Social Agora, mais en tant que président de l'association Alafou, les jeunes, notamment dans Alafou, est-ce qu'ils sont ici dans le groupe de veille? Comment ils s'investissent?
Alors oui, donc maintenant...
Et en plus, ils sont nombreux.
Oui, voilà. Mmh. Donc nous, on a la chance sur le territoire d'avoir un collectif jeune. Donc maintenant, on les identifie plutôt par collectif jeune pour leur donner leur identité à part entière. Et donc oui, ils s'investissent au groupe de veille. Et donc dès qu'ils peuvent, hein, parce qu'ils sont scolarisés, ils travaillent, donc voilà. Et ils s'investissent même lors de la conférence de presse, ils ont pris la parole. Donc après, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur la prise de parole des jeunes. Et sur leur participation, tout simplement, hein, à travers le conseil des jeunes qui est porté par l'association Passerelle. Donc voilà, on travaille ça avec eux, et justement, parce que pour nous, c'est les citoyens de demain, et qu'il faut qu'ils se forment donc, à tout ce mouvement citoyen, tout simplement.
C'est vrai que depuis le début, ils sont présents.
Oui, depuis le début, ouais. Oui, on essaie de les impliquer, et de toute façon, même eux, ils se sentent impliqués dans la vie du quartier. Donc du coup, tout ce qui touche au quartier, forcément, ils se mobilisent.
Après, on parlera sur le fond des thématiques du groupe de veille, hein, tout ce qu'on a élaboré tout au long de ces réunions. Je vais passer la parole à Bertrand, après je passerai la parole à Fadela. Bertrand, toi, en tant qu'administrateur de l'association des locataires de Saint-Barthélemy 3, comment tu vois ce groupe de veille?
En fait, il repose avant tout sur, me semble-t-il, sur la conviction que les habitants ont envie de bouger, ont envie de résister,
ont envie d'agir. Ouais.
Mais qu'effectivement, vu les conditions, c'est pas toujours facile. C'est déjà pas facile, je veux dire, de s'engager ailleurs. Là, effectivement, vu les conditions du logement, vu les conditions de difficulté, de pauvreté des populations, se révolter, c'est un instinct profond. Hein. Après, il faut pouvoir le mettre en application. Et en fait, ça, on sent bien, en fait, l'expérience que j'ai, moi, au travers de 30 ou 40 années de service social auprès des populations étrangères, venues d'ailleurs, c'est qu'on a affaire à des êtres humains qui, en fait, sont arrivés en France sur la base de dire non, hein, d'une volonté, effectivement, d'agir autrement que de rester enfermés dans un pays qu'ils n'arrivaient pas à changer. Donc, émigrer, c'est dire non. Hein, et en fait, il y a une espèce de continuité entre cette position de départ et la vie ici.
C'est important de soulever voilà, ce que tu as dit à l'instant, Bertrand, concernant le couple de veille. C'est vrai que le couple de veille, maintenant, il s'est bien émergé. Et ça, c'est important. Quand on voit deux fois la préfète venir ici, c'est que c'est pas pour rien, quoi, je veux dire, déjà. Deuxièmement, Madame Assidon, qui est venue deux fois ici dans les quartiers, de la Busserine, hein, faire visiter les lieux, notamment remonter les doléances des habitants. Et c'est ça, c'est l'importance de ce groupe de veille, et qui fait partie aussi, qui inclut aussi le collectif du Grand Saint-Barthélemy, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, Céline, toutes les associations de proximité, et ça c'est important de soulever. On va faire une pause musicale, et après je passerai la parole à Fadela autour des thématiques qui concernent le groupe de veille.
Boucher un flingue, sache que j'ai chargé les munitions. Pour les mauvais élèves, navré, je lâcherai que les punitions. Tu vaux pas mieux que ces physios stupides. Islam et délinquance, qui est-ce qui joue les idiots utiles? Et ça sort le pao, pour voir l'autre chaos. Le rap est en rase mode, ouais, ça vole pao. Dans tous les cas, m'en voulez pas, je suis quelque peu dégoûté. Et dire que c'est tête de neige, j'ai goûté. J'avais copié les failles, comme Besancenot. D'exploitation, je parlais avec au pied mes Nike. Sur le beat, pour me poser, je bosse dur. La gauche, la droite, veut me cantonner que dans le côté obscur. Me voir faucher et puis droguer au stup. Sans déconner, je dois bosser, j'ai des projets, j'arrête zone et je m'occupe. Ciao, bye bye. Professionnel dans mon domaine, comme les dans le meurtre. Ciao, bye. Sur les carriers, je sais que tout est copié. De leur casquette à leur basket. Les jeunes se rendent pas compte, ils se mettent des boulets aux pieds.
Entre poèmes et vulgarité, je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à trois personnes de ton entourage, qu'ils l'enverront à trois personnes de leur entourage, qu'ils l'enverront à trois personnes de leur entourage, qu'ils l'enverront à trois personnes et ainsi de suite. Je suis en pleine fuite au moment où je te parle. Faut pas que je sois en pleine fuite, que le bon Dieu m'épargne. Je me répare malgré la rue et ses méfaits. Dans une époque où ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Tout ce qui m'effraie, c'est le refrain que nos légendes gênent. L'ultime séjour, les mauvais jours pour les gens que j'aime. Mon oxygène, c'est quand je veille près de vous et mon public est...
Toujours en direct, le groupe de veille et le pouvoir d'agir des habitants avec un point d'interrogation. Avec Fadela, qui fait partie de l'association des parents d'élèves. Céline, qui est une habitante et en même temps une militante aussi, et qui fait partie du conseil d'administration du Centre Social Agora. Rania, qui est salariée de l'association du Centre Social Agora, et en même temps bénévole en tant que présidente de l'association Alafou. Yamina, présidente de l'association des allocataires de Saint-Barthélemy 3. Et 13-14, oui, 13-14, ouais. Ouais, c'est important de soulever, tu as raison, Céline. Et Bertrand, qui fait partie du conseil d'administration et en même temps du conseil d'administration du Centre Social Agora et de Saint-Barthélemy 3, association de locataires. Céline, tu voulais prendre la parole.
Oui, je voulais dire une chose, c'est que dans nos quartiers à la Busserine, on subit la violence et la stigmatisation. Déjà, quand on parle de la Busserine, ça y est, oh mon Dieu, il y a des assassinats, il y a des tirs, il y a machin et tout. Sachant qu'il y a très peu de personnes, il y a un très petit pourcentage de personnes qui sont dans les réseaux, tous les autres jeunes essayent de se sortir pour vivre une vie décente. Donc ils travaillent, ils font des études, ils sont engagés dans le quartier. Il n'y a que 1 à 2% de jeunes de la population qui sont dans les réseaux et qui font de l'illicite en fait. Il faut pas se voiler la face, il faut le dire dans le sens où c'est vraiment un petit pourcentage et que c'est celui-là qu'on relève à chaque fois dans les médias, dans les voilà. Et il faut dire que voilà, c'est très voilà, il faut vraiment le dire quoi, parce que c'est vraiment très important.
C'est important. Voilà. Merci Céline de le dire. C'est important. Yamina, concernant le groupe de veille, les thématiques voilà qu'on est en train de travailler en ce moment, c'est elle qui t'interpelle le plus. C'est...
Moi, personnellement, c'est la fermeture de la crèche. Je trouve illogique qu'on ferme une crèche avec un quartier, avec autant d'enfants dans un quartier. Voilà. Après, y a toutes les thématiques qui sont bonnes.
Pour soulever le problème de la crèche, c'est que la crèche va bientôt fermer en septembre 2019. Mais le problème, c'est que voilà, on ne sait pas s'il y a un repreneur ou pas.
D'après la directrice, personne compte reprendre cette crèche. Et puis, on va bien voir ce qu'on va en faire, parce qu'on ne va pas laisser un endroit si grand tout seul, quoi.
Abandonné,
ouais.
Yamina, je crois qu'on ne va pas te retenir. En tout cas, merci d'avoir participé.
Plus le McDo. Oui. Effectivement.
Ouais,
on nous ferme tout.
Actuellement, où ça en est? Parce qu'il n'y a pas de repreneur
Toujours pas, mais d'accord. Je crois qu'il...
Il y avait une manif récemment.
Tout le monde était présent. On s'y est vu. Après, il doit y avoir le jugement. La date du jugement, je ne sais pas.
C'est pour ça que c'est important de dire que le groupe de veille, il est concerné aussi dans le cadre de McDo aussi. Ça, c'est important de soulever. Voilà.
C'est tout le Grand Saint-Barthélemy. Mmh. Chaque problème, on essaye, on se réunit tous et essaye de trouver des solutions pour le bien commun du quartier.
En tout cas, merci Yamina. Et je sais que tu as un rendez-vous. Et merci d'avoir participé.
Je t'en prie.
Bertrand, tu restes
deux minutes.
D'accord, vas-y, tu prends la parole. Oui.
Ouais, je voudrais dire que le groupe de veille, il faut reprendre aussi le mot veille. C'est pas simplement. C'est... Essayer de dénoncer, mais c'est rester éveillé, hein, c'est être des éveilleurs. Et ça, je crois que c'est très important que ce mot ait été pris en fait pour définir le groupe. Hein, parce que en sachant effectivement que toutes les statistiques le prouvent, que venir en fait habiter dans les quartiers, c'est jamais un choix. Hein, c'est jamais un choix. Il y a 57% de la population des HLM qui sont en situation de grande pauvreté. Hein, ce qui est un pourcentage beaucoup plus important que dans les copropriétés ou dans les quartiers du centre-ville. Et donc, un groupe de veille, c'est vraiment pour dire à tout le monde, restons éveillés ensemble.
Vigilant, voilà. Tout ce qui se passe. Fadela, je vais te passer la parole autour des thématiques qu'on a mis en place. On a travaillé sur pas mal de thématiques, et c'est là où on revient par rapport à l'œuf. Vous, en tant que parent d'élève, c'est vrai, notamment maman, il y a des mamans qui travaillent aussi, qui laissent leurs enfants là-bas. Il y a une grosse inquiétude par rapport à tout ça.
Une grosse inquiétude, oui, en tant que maman et puis en tant qu'habitante, tout simplement. Hein, on commence à enlever les institutions. Bon, McDo, ce n'est pas une institution, mais c'est quand même un point central de notre quartier aussi. Hein, c'est un point important et on enlève tout petit à petit. La crèche... Même les enfants qui sont en crèche cette année, on n'est pas sûr qu'ils aient une crèche l'année prochaine. Les locaux, c'est immense. C'était 500 mètres carrés. 500 mètres carrés de locaux qui vont... On ne sait pas, ça va être à l'abandon. À l'heure d'aujourd'hui, si personne ne fait rien, les locaux seront fermés en juillet et personne ne va rien reprendre. Donc c'est incroyable, sachant qu'il y a un réseau juste à l'extérieur. Qu'est-ce qui peut se passer dedans, quoi?
De toute façon, HMP, comme j'ai compris, ils ne vont pas le laisser comme ça, vide, du jour au lendemain. Parce que Mme Assidon, je me souviens quand elle est venue, elle avait dit, c'est vrai, on ne lâchera pas ce...
Oui, on ne lâchera pas. C'est ce qu'ils nous ont dit, mais qu'est-ce qui va être fait, c'est voilà. Ça. Normalement, ça devrait être maintenant que tout doit s'enclencher, parce que juillet, ça arrive très vite.
Comme je vous ai compris, moi qui fais partie du comité de veille, lors de la précédente réunion, c'est qu'on veut à tout prix qu'il y ait une autre crèche.
Alors une crèche, en réalité, on ne sait pas si ça va être possible, puisqu'il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de règles d'hygiène et de sécurité à respecter. On ne sait pas si ça va être possible, mais dans tous les cas, que les pouvoirs publics se réapproprient les locaux et que les habitants aient ce local à disposition pour leur bien-être et pour, peut-être pour l'emploi ou autre, mais trouver une autre utilité à ce local, parce que c'est immense, quoi. Ça serait dommage.
Rania, tu voulais parler ?
Je voulais rajouter quelque chose, c'était qu'au-delà du fait que ça soit une crèche, elle a aussi pour fonction d'être une halte-garderie.
Exactement.
Et donc, du coup, pour nous, c'est important aussi de conserver cette ressource dans le quartier, compte tenu du taux de chômage qu'il y a sur le quartier et du nombre de personnes qui sont à la recherche d'emploi et qui n'ont pas d'endroit où laisser leurs enfants. Donc, c'est vrai que nous, je pense que sur le groupe de veille, on va essayer de plus travailler cette ressource-là qui est très importante pour le public. Et après, sur l'aspect crèche, on verra.
On avait parlé lors du groupe de veille de faire une transition avec l'association L'île aux enfants, qui est là, qui a créé la micro-crèche à Picon. Et je crois qu'il va prendre aussi celle qui va se mettre en place ici à la Tourcu.
C'est pas sûr. Rien n'est sûr.
D'accord, rien n'est sûr.
C'est ce qu'on pensait l'année dernière, tout le monde était sûr, mais au final, rien n'est fait, rien n'est.
Rania, oui.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une commission petite enfance qu'il y a sur le territoire, qui regroupe toutes les institutions, PMI, financeurs, etc. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est la prochaine, je pense que c'est la prochaine thématique qui va être travaillée lors de cette commission. Et sur la crèche à la Tourcu, c'est un projet. Donc, ça avait été validé. Le porteur, ça serait L'île aux enfants aussi. Il faut savoir que c'est une micro-crèche, que ce n'est pas une crèche, que ça ne comporte que 10 places. Et oui, c'est vrai que sur la Tourcu, ça avance pas trop parce que c'était prévu pour fin 2018. Et que là, c'est vrai qu'on n'est pas...
D'accord. Par contre, concernant la crèche, on parle de l'emploi aussi. Il y a pratiquement une quarantaine d'emplois. Est-ce que c'est non, une trentaine ?
16 salariés.
D'accord. Ouais. 16 emplois. Est-ce que ces salariés-là vont être au chômage du jour au lendemain ou ils vont être... voilà. Parce qu'il y a des parents, ils sont carrément inquiets. Il y a un habitant qui m'a interpellé la dernière fois. Il y a sa femme qui travaille là-bas. Il ne sait pas si sa femme va continuer avec
C'est le même questionnement que pour les enfants, que pour les locaux. Et c'est la même chose pour les salariés. Personne ne sait rien. D'accord. Dans toutes les strates de cette histoire de crèche de l'œuf, il n'y a personne qui ne sait rien. D'accord. La directrice n'a pas plus d'informations que nous. Voilà, ou peut-être elle ne veut pas ou elle ne peut pas. Mais dans tous les cas, les salariés ne savent pas.
C'est pour cela que j'en reviens par rapport au pouvoir d'agir des habitants. Voilà, le pouvoir. C'est important. C'est pour cela que, Céline, si je peux me permettre, c'est que on a quand même... voilà, les habitants ont habité plus de 40 ans ici. Je veux dire... voilà, on a besoin de les écouter. Je veux dire, moi, je trouve que c'est important. Quand on voit les gens qui font partie des institutions, qui sont venus, comme la déléguée du préfet qui est là tout le temps au quotidien, on la remercie, hein, Madame Navarro. Hein, on tient à la remercier parce que sans elle, en ce moment, croyez-moi, qu'elle ne remonterait pas à Madame Assidon les problématiques qu'il y a. Mais c'est vrai que quand on parle de pouvoir de décision... concernant la crèche, c'est toute une histoire. Ça a été créé par les habitants. Et ça, il ne faut pas oublier ça. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ?
Déjà, on a acquis une légitimité dans le sens où bon, on a quand même agi dans le quartier sur certaines problématiques. Surtout après la fusillade, au vu de la stigmatisation des chaînes LCI, BFM TV, qui nous traitaient de parents, de dealers, et qu'on vivait avec l'argent de la drogue, on a réagi tout de suite, on a fait une conférence de presse. Et cette conférence de presse était organisée, elle s'est très bien passée, et on a acquis une certaine légitimité. Et de toute façon, en travaillant avec l'union de toutes les associations du quartier, quand on est unis, on est plus fort de toute façon. Comment vous dire, on veut obtenir gain de cause. Donc, je pense que Mme Navarro a vu notre compétence, notre organisation, notre sérieux Le vu du nombre des réunions, le nombre de personnes qui a ces réunions, des fois on est une trentaine. Donc je veux dire, elle est restée assez étonnée de voir que bon, dans ce quartier ça bouge énormément et nous on veut que ça bouge. On ne veut pas que notre quartier, il a tout à disposition. On ne veut pas qu'on nous enlève. Le problème de la crèche, on est en train de nous lever une structure où ça peut empêcher les habitants de chercher du travail, de travailler correctement. Voilà, ça empêche. Déjà qu'on vit dans une grande précarité, on est en train de nous enlever tout ça. Déjà la baisse de subvention des associations qui fait que les associations ont un pouvoir d'action restreint. Alors, en plus de ça, on est en train de nous lever des activités au niveau de l'espace culturel Busserine. On est en train de tout nous enlever. Et ça, on ne le veut pas. Veut garder ce qu'on a. On veut garder tout ça. Et c'est pour ça qu'on se bat.
C'est pour cela que tu viens de soulever le problème majeur, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est les financements. C'est vrai que la région a supprimé toutes les structures associatives hein, en termes de financement. Ils ne financent plus personne hein, dans les centres sociaux. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est vrai que ça pose problème.
Bien sûr.
Le combat continue par rapport au pouvoir des habitants et c'est pour cela qu'on ne baisse pas les bras.
Oui, on veut faire comprendre voilà. À Mme Navarro que la problématique, ce n'est pas déployer la police en plus. Franchement, ça ne sert à absolument rien. On essaye de lui expliquer que la problématique, c'est la précarité. Que plus on est là dans la précarité, plus les réseaux de drogue se multiplient et se multiplieront encore. Et c'est le problème, c'est la précarité. C'est ça qu'il faut traiter. C'est ça qu'il faut traiter. Et quand on nous enlève des structures comme des crèches et tout, les parents ne peuvent pas travailler. Donc, ils restent dans la précarité. Les enfants qui sont dans la rue, ils sont happés par les réseaux. Donc, il faut subventionner les associations pour qu'elles aient un pouvoir d'action plus élargi. Un enfant qui est dans une association, il n'est pas dans la rue, il n'est pas happé par les réseaux. Un enfant qui est dans la rue, oui. Donc, tout ça, c'est important. On essaye de lui faire comprendre. Mais après, bon, c'est le gouvernement. Notre gouvernement fait une politique antisociale. Donc, à un moment donné, il faut lutter contre cela et ne pas nous dire que c'est nous qui sommes responsables de ces problématiques-là, alors que c'est le gouvernement qui est responsable de ça. Le gouvernement est responsable de notre précarité. Le gouvernement est responsable des baisses de subventions et le gouvernement est responsable de faire une politique antisociale. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Hein.
On pourrait dire éventuellement c'est une discrimination de territoire.
Oui, je pense. Après, il faut se rappeler qu'on est à la Busserine, que c'est un quartier qui est riche d'une histoire associative et militante incroyable. Il marche pas. Comme ça. On va continuer à. En fait, cette histoire de la fusillade, ça a réveillé quelque chose, je pense. Ça a réveillé une âme citoyenne dans le quartier, une âme militante. Et quand on voit que c'est à travers le groupe de veille et les conférences de presse et tout ce qu'on s'est démené à faire sur le quartier, on a amené les politiques à venir vers nous. On a amené la préfète à venir vers nous. On a amené le préfet de police à venir. C'est nous, on ne leur a pas demandé. Ils sont venus d'eux-mêmes quand ils ont vu qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à la vie de leur quartier. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on doit continuer à faire. De toute façon, on continuera toujours. L'État a ses responsabilités. Il faut qu'il les prenne parce qu'on n'y arrivera pas seul. Mais eux, ils n'y arriveront pas sans nous non plus. Donc, voilà.
Non, mais c'est bien ce que tu dis parce que c'est important. Parce que je trouve que ce territoire a une histoire riche en tant que militantisme, je peux dire. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont milité et j'ai remarqué qu'il y a une sorte de transition à travers vous par rapport aux gens qui ont milité avant. Et ça, je dis, la mémoire est toujours vivante à travers ces gens-là qui ont milité pour avoir ce fameux bus, le 33, pour avoir... je veux dire, toutes sortes, le fameux stade, rénové, le fameux stade des premières années. Je
sécurisation de l'école primaire et maternelle, des choses qui sont censées être basiques et normales et naturelles. C'est des choses pour lesquelles on paye nos impôts, on cotise tout le temps, toute notre vie, alors qu'il faut se battre pour mettre un portail.
C'est important.
Il faut se battre pour mettre un portail et sécuriser les lieux.
Là, ça tombe bien parce que je voulais te poser la question pour l'école. Ça rentre dans le groupe de veille. l'école.
Oui, oui, bah, c'est par rapport à l'école qu'on a créé le groupe de veille. Voilà, c'est par rapport à la sécurisation.
C'est une question par rapport à ça, parce que on a, avec Djamila, on a fait l'état des lieux un petit peu du quartier avec Madame Assidon.
Oui.
Et on a regardé.
Moi, j'ai fait l'état des lieux avec Madame. Voilà.
Qu'est-ce qui manque à l'école ?
Navarro, ouais. J'ai fait là il y a 15 jours.
Ouais. Qu'est-ce qui manque à l'école ?
Et il y a énormément de malfaçons. Mmh. C'est-à-dire qu'on a une école neuve qui est déjà trop petite. Voilà. Parce qu'elle a été construite sur la base du nombre d'enfants qu'il y avait à la destruction, alors qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient été relogés, mais après ils reviennent par rapport aux travaux. Il n'y a pas de préau.
C'est ça.
Il n'y a pas de préau. Mmh. Les enfants, quand il pleut, sont obligés de marcher sous la pluie pour aller en classe. Pendant la récréation, ils se retrouvent dans un préau qui peut accueillir même pas le quart du nombre d'enfants.
On m'a parlé aussi des baies vitrées.
Les baies vitrées qui sont
sans rideau.
Mmh. Ils ont mesuré, le directeur de l'école primaire a mesuré les températures au mois de juin. Je crois que c'était à 34 ou 33 degrés dans une classe.
Pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, les baies vitrées sont de 2 mètres de hauteur, c'est ça ?
Exactement.
Sur 4 mètres de largeur.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça. C'est important. Et la chaleur rentre et ne peut pas sortir.
Ouais, c'est incroyable.
Donc 33 degrés dans une classe, une journée entière dans une classe à 33 degrés, nous adultes, on ne supporterait pas. Alors des enfants, on leur demande de travailler. C'est impossible, ce n'est pas humain.
C'est pour cela que j'en reviens par rapport au groupe de veille. Le groupe de veille, voilà suit
tout,
en permanence.
Tout, le groupe de veille est ouvert à tout le monde, que ce soit nous, l'école, que ce soit les parents, que ce soit les habitants. Il suffit juste de porter le problème. Et après, tant que le groupe de veille peut aider, et on se doit d'aider parce qu'on est là pour ça, on aide. Voilà.
Pour ceux qui nous écoutent, qui sont interpellés par ce problème, ils peuvent nous contacter au 09 54 38 87 44, au 04 91 02 37 31, c'est au Centre Social Agora. Et voilà, et vous nous appelez, il n'y a pas de souci, on peut vous orienter et vous pouvez venir participer au groupe de veille aussi. Voilà, moi je trouve que c'est important que d'autres gens qui font partie de l'extérieur, voilà, viennent aussi savoir un petit peu comment ça se déroule ici, dans les quartiers. Toujours dans le cadre du groupe de veille, thématique autour de la rénovation urbaine. J'ai vu, Céline, comme quoi il y a le premier coup de pioche ici pour refaire les parkings à proximité de ces bâtiments de Saint-Barthélemy 3. En tant qu'habitante, comment tu le vois ?
Ça fait tellement longtemps qu'on subit les travaux. On les subit, et il faut dire le mot est subir, parce qu'on ne nous a pas demandé notre avis. On fait des réunions Zarma pour nous dire oui, on vous consulte et tout, mais en fait, tout est déjà voté, tout est déjà fait, quoi. Donc on n'a pas le choix. On en a un peu ras-le-bol des travaux, parce que ce sont des travaux de surface, en fait. HMP par exemple nous dit ouais, on va faire ça comme travaux, oui c'est bien, mais ils se préoccupent pas de l'intérieur des appartements, il faut voir dans quelles conditions vivent les locataires, donc ça c'est pas relevé non plus. Et on vit dans le bruit, on vit dans la poussière, il y a beaucoup de maladies qui se sont développées là, de l'asthme, les maladies respiratoires, je veux dire ils s'en sont pas occupés. Les travaux de la L2 aussi, ça pose souci. Je veux dire, on ne nous a pas consultés, nous les habitants, on l'a fait malgré nous.
Est-ce que le groupe de veille peut prendre parti avec les logeurs comme HMP, comme le GIREM, les inviter? Moi, je trouve que c'est important de les inviter.
Oui, il faudrait qu'ils viennent déjà, aussi, parce que voilà, l'invitation a été faite. Je ne sais pas s'ils ne
sont pas venus.
Voilà,
d'accord.
C'était pas pour la voirie, mais je veux dire, on aimerait travailler en collaboration avec eux, c'est bon. Et les bailleurs, c'est assez problématique en ce moment, parce qu'ils se montent pas trop, mais on aimerait travailler en collaboration avec eux, les intégrer dans le groupe de veille pour pouvoir trouver des solutions avec eux, avec leur collaboration, ce qui serait vraiment intéressant pour leur donner toutes les problématiques qu'il y a dans leur cité, quoi. Je veux dire, c'est hyper important, mais bon... C'est en cours.
Dans le groupe de veille, Rania, je voulais te poser une question. Dans le cadre des activités de proximité sur, les, sur le quartier, en termes de sécurité, comment ça se passe? Parce qu'il y a les coins de deal et tout. Est-ce que vous, vous choisissez des lieux où, pour être plus à l'aise ou ça peut se faire devant les dealers, tranquillement?
Honnêtement, on n'a jamais eu de problème, avec les dealers. Voilà. Donc, on a déjà fait des animations de proximité auprès d'eux. On n'a jamais eu de soucis. D'accord. Après, c'est vrai que nous, les lieux, on les choisit en fonction de l'animation qu'on va proposer et pas en fonction du point de deal.
D'accord.
Donc, après, le point de deal, ça n'a jamais été un problème. Je pense qu'on a toujours cohabité dans le quartier avec... voilà, quoi, c'est des jeunes.
Par contre, dans le cadre du groupe de veille, je reviens par rapport aux activités, on a soulevé ça à une réunion du GPS, comme quoi il n'y a qu'une association sportive de football. Et c'est vrai qu'il y a une forte demande des habitants, malheureusement. Et c'est vrai qu'on l'a inclus dans le groupe de veille. Et ça pose problème. Il y a une liste d'attente incroyable.
Par rapport au club de foot ?
Au club de foot.
Oui, oui. Ouais. Pour cette rentrée, en tout cas, c'est vrai qu'ils ont un nombre limité d'accueil. Et c'est vrai que l'équipe du club de foot, elle est exclusivement constituée de bénévoles. Et que, justement, ils ont dû refuser des enfants parce qu'ils avaient trop d'enfants. Ils ont été obligés de sélectionner. Et c'est vrai qu'il y a eu un coup de gueule par rapport aux habitants qui n'ont pas pu avoir de place. Quoi.
D'accord.
Mais oui.
Moi, personnellement, j'ai ma fille qui joue au club de foot. Effectivement, ça a été très, très compliqué pour les sélections parce qu'il y avait beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres. Mais il faut savoir vraiment, il faut se rendre compte que c'est que du bénévolat. Donc, tous ces jeunes qui sont là du lundi au dimanche parce qu'ils n'ont pas de repos, c'est des étudiants, c'est des gens qui travaillent. C'est vraiment que ça. Il n'y a personne qui prend un euro. Moi, je trouve que c'est assez incroyable quand vous venez le mercredi après-midi et que vous voyez que de 13h30 jusqu'à 20h30, il y a des gens qui entraînent des petits. Je trouve que c'est magnifique, franchement. Il n'y en a pas beaucoup des clubs comme ça. Et puis l'année dernière, cette année, ils sont victimes de leur succès hein, parce qu'ils ont signé quand même des... Il y a des petits qui ont été signés à l'OM. Ouais, c'est une belle réussite. Moi, je trouve que c'est un bel exemple pour les clubs des quartiers. Il y a des petits qui ont été signés à l'OM. Il y a des jeunes filles aussi. C'est beau, ça fait plaisir. Mais voilà, ils vivent avec rien, ces clubs de foot-là. Il faut savoir que le prix du sport, c'est très cher. Moi, personnellement, pour ma part, je vais parler pour moi, hein, parce que, mais je pense que tous les parents ils pensent la même chose. Faire du sport, malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde.
C'est ça.
C'est devenu très cher. Une licence de sport qui tourne autour de 200 euros, pour une famille qui a 2 ou 3 enfants, ça devient cher.
C'est incroyable.
Voilà. Le sport, ça commence à devenir un produit de luxe, alors que ça devrait être ouvert à tout le monde sans discrimination. Et c'est une discrimination de plus... Que vivent les habitants de ces quartiers populaires?
Surtout qu'il y a quand même un nombre d'habitants que je nomme, notamment, c'est, on peut dire ça comme ça, précarité silencieuse. Et ils ne veulent pas trop parler de leurs problèmes, tout ça, mais ils sont dans le besoin, c'est ça. Et ça, malheureusement, c'est une grande difficulté. Et ça, on le voit de plus en plus.
C'est difficile à assumer, hein, quand on ne peut pas mettre ses enfants au foot ou à la boxe ou autre, c'est difficile quand même. Faut les comprendre, ces gens-là, et puis c'est les enfants qui souffrent.
C'est pour ça que le groupe de veille est important par rapport à ces problèmes-là. Moi, j'ai pensé aussi éventuellement, si on ne peut pas les prendre en club de foot, on peut éventuellement que l'enfant peut-être peut aimer de faire du basket ou de la boxe ou du judo, tout comme ça. Je sais qu'il y a des associations sportives ici à proximité. Il y a d'autres associations sportives autour de sports de combat, autour de Bayern, si je ne me trompe pas.
Oui, il y a beaucoup d'offres. Il y a du handball, voilà. Il y a le basket, je ne pense pas. Il n'y a pas de club de basket.
Non, d'accord. Il y a la piscine à côté.
Qui vient de réouvrir, qui est très cher. Justement. Et après, ce que j'allais dire, les créneaux, ils sont exclusivement réservés aux écoles, aux clubs. Et donc, du coup, aux habitants, c'est entre midi et deux et c'est pas très pratique.
Comment elle s'appelle l'association qui donne des cours de nage gratuits Le grand bleu. Est-ce qu'avec eux, éventuellement, il y aura... Parce que je pense que c'est important de les mettre dans le groupe de veille, parce qu'ils sont impliqués. J'ai vu
qu'ils ont été invités.
D'accord.
Je les ai invités, je les ai rencontrés. Je les ai invités. Après, ils m'ont dit que selon leur disponibilité, ils essaieraient de venir. Mais le but premier, normalement, d'une piscine qui se trouve au milieu de la Busserine, c'est d'être ouvert aux habitants de la Busserine.
Exactement.
Voilà, tout simplement. Pendant les vacances en particulier. Et c'est pas le cas.
C'est ouvert qu'entre midi et deux, donc c'est un scandale, quoi. Voilà.
D'accord. Le prix du club, le prix à l'année pour un enfant à la piscine, c'est 320 euros.
Ah, quand même, hein. C'est pas donné.
320 euros l'inscription. Quand on regarde la moyenne de ce que doivent percevoir les habitants, je pense qu'on n'est même pas au SMIC. Ouais. Personne ne peut se payer un truc comme à ce prix-là. Donc c'est la précarité dans toute sa splendeur, quoi.
C'est pour cela que le groupe de veille est important à se lever par rapport à ces problèmes-là, notamment financiers. Comment inscrire son enfant, est-ce qu'il y a une aide à côté? C'est pour cela que, avec les responsables institutionnels, éventuellement à inviter pour les prochaines réunions, de voir éventuellement avec eux comment on pourrait faire. Moi, je trouve que c'est important.
Oui, mais c'est assez problématique dans le sens où la précarité, elle est très grande dans ces quartiers. Il y a des familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui n'arrivent pas à manger jusqu'à la fin du mois, qui ne font même pas trois repas par jour. Parfois, inscrire son enfant au centre aéré, c'est problématique parce qu'ils n'ont pas l'argent. Même s'ils payent le plus petit taux pour le centre aéré, ils n'ont pas les moyens de le payer. C'est vraiment... problématique. C'est la précarité dans toute sa splendeur. On vit dans l'insécurité, que ce soit l'insécurité financière, que ce soit l'insécurité visuelle, que ce soit... On vit des violences quotidiennement. Et ça, c'est une violence que de vivre dans la précarité. C'est une grande violence parce qu'on ne se sent pas en sécurité. On fait le système de la débrouille, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas.
J'en reviens par rapport toujours au groupe de veille, c'est important. Le groupe de veille, concrètement pour vous, ça tient le coup.
C'est une résistance.
Voilà.
C'est une résistance, c'est un combat pour qu'on puisse vivre dans la dignité et la respectabilité.
Il est reconnu quand même.
Bien sûr, on a une légitimité puisqu'on travaille avec la préfecture, mais on a acquis cette légitimité, mais on veut montrer qu'on est citoyen responsable, parce qu'on nous a traité quand même de d'irresponsables. On est des citoyens responsables et on est digne malgré tout. On est digne, on n'est pas là à pleurer tous les jours, on ne veut pas se victimiser, on dit la réalité des choses et on combat pour ça. Le gouvernement on est devenu des résistants. On est devenu des résistants parce que on vit dans la violence quotidiennement et on lutte contre ça et on ne veut plus vivre ça. Donc c'est nous qui faisons les choses, c'est nous qui nous réveillons. Et de toute façon, le peuple a toujours été une force et c'est le peuple la force, c'est pas le gouvernement.
Et en plus, c'est important de dire que c'est pas une cité de l'endroit, hein. C'est vrai, hein.
Nous sommes des citoyens à part entière, nous avons exactement les mêmes droits que d'autres. Et ça, on le revendique, on le revendique haut et fort. Voilà, on est une population éclectique et on a autant de droits les uns que les autres. On a les mêmes droits. Il n'y a pas un qui n'a pas le même droit que nous. On a tous les mêmes droits et ça, on le revendique.
Dans le cadre du groupe de veille, on a inclus aussi tout ce qui est voirie, Rocadelle de Nord, tout ça. Il va y avoir l'aménagement bientôt. On a parlé de l'emploi pour les jeunes. Est-ce que, pour les jeunes, éventuellement, il faudra, je pense, recontacter les pouvoirs publics, hein, parce que moi, je trouve que c'est important. Lors de la réunion du GPS, on a soulevé ce problème-là avec Madame Navarro. Et c'est vrai qu'avec le groupe de veille, il faudra quand même soulever ce problème autour de l'emploi.
Mais bien sûr, hein, c'est ce qui avait été prévu à la base, au début. Tous les travaux qui devaient être faits à la Busserine, dans le Grand Saint-Barthélemy, devaient intégrer des gens des cités, des gens des quartiers pour les faire travailler et justement les sensibiliser à ces travaux-là. Mais ça n'a pas été le cas. Je ne sais même pas s'il y en a eu des jeunes qui ont été embauchés. Il y en a eu, mais je pense très peu par rapport à ce qui aurait pu être fait. Et là, on va voir avec Madame Navarro, avec les institutions, ce qui peut être fait. Mais dans tous les cas, ça va rester encore un combat. Un combat parmi les autres, mené par le groupe de veille. Tout simplement, on va les amener à réagir. En agissant nous, on les amène à réagir. C'est limite, on les force. Quoi. C'est ça qui est gênant.
Par rapport à, toujours au groupe de veille, ça veut dire qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le quartier, c'est incroyable. Comment le groupe de veille travaille sur chaque thématique ? Thématique l'œuf, la thématique sportive, activité, tout ça, manque de moyens financiers, autour de l'emploi, notamment autour de l'aménagement urbain. Voilà.
Comment on essaye d'aller au plus urgent. On va vers les problèmes qui viennent vers nous. En fait, hein, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Hein. On a créé le groupe de veille, c'était un problème avec la sécurité de l'école. Après, le problème de la crèche, c'est une parent, une maman d'enfant de la crèche qui nous a contactés. Par rapport à la fusillade, c'est une réaction citoyenne hein, d'habitants, et, puisqu'on est nous-mêmes habitants, hein, donc on a réagi automatiquement. À chaque fois, on réagit à quelque chose, donc on attend la sollicitation. Et puis nous aussi, puisqu'on est dans le quartier, on voit ce qui se passe, et s'il y a des urgences, on les traite au mieux.
Rania, par rapport aux jeunes, notamment aux jeunes
du collectif jeune, ouais.
C'est vrai que dans le groupe de veille, il y a ce fameux Mohamed hein, qui est vachement investi avec l'ensemble de ses camarades autour de la citoyenneté. C'est quoi ? Ils ont créé une sorte de conseil de jeunes.
En fait, le conseil de jeunes, il existe déjà. Ça fait un petit moment qu'il existe. Après, eux, c'est vrai qu'ils ont commencé, on va dire, à participer au conseil des jeunes depuis qu'ils ont eu l'âge d'y entrer, parce qu'on les fait rentrer à partir de 16 ans. Et puis, étant bénévole aussi à l'association À la Fou, du coup, on s'est dit que, étant bénévole aussi au club de foot, parce qu'il faut savoir qu'ils sont entraîneurs aussi, ces jeunes-là. Donc, c'est vrai, ouais, ils ont déjà cette culture, en fait, de participation active, hein, tout simplement, à la vie du quartier. Et après, les choses, elles se font naturellement. Maintenant, quand on fait une action, on pense forcément à eux parce qu'ils sont très motivés, mobilisés et investis, comme tu dis.
Et je reviens par rapport à... Là, je change carrément de truc. Je reviens par rapport à l'urbanisation, par rapport à HMP. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui n'est pas fini encore ? À part les voiries, Céline ?
Qu'est-ce qui n'est pas fini ?
Ouais, c'est
pas
la... Qu'est-ce qui n'est pas fini ?
Qu'est-ce qui est fini
déjà ?
Rien n'est fini, ça sera plus simple.
Parce que c'est dans le groupe de veille, ça. C'est important.
Oui, il n'y a aucun espace de jeu. Ouais. On nous avait promis depuis des années, derrière les locaux de Maméga, de faire un jardin d'enfants et tout. On n'a rien encore. C'est un terrain vague, on n'a rien, absolument rien. Les jardins d'enfants ont été retirés. On n'a rien compris, on ne sait pas pourquoi. Je veux dire, il n'y a rien qui est fait. On nous donne toujours des excuses. Oui, mais il y a ci, il y a ça. Et nous, on attend. On attend depuis des années de faire jouer nos gosses à l'extérieur et tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
Le problème se pose, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors.
Mais bien sûr que non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'on nous tourne en bourrique à chaque fois. On nous dit un truc, et puis après, il y a autre chose qui est fait, et puis après, il y a autre chose... Et on n'en voit plus la fin. On n'en voit plus la fin. Voilà. Là, on nous a mis des dépliants dans la boîte aux lettres en disant qu'il y avait un réaménagement qui allait se faire de l'extérieur et tout. On va voir, hein, parce qu'on n'y croit plus. Hein. On n'y croit plus. C'est, la tour, ils ont fait... Pour la tour D, par exemple, il y avait deux entrées. Ils ont fait une seule entrée. Ah oui, ça a été fait. Il n'y a pas de problème. Pour sécuriser la tour, on va dire. Mais il faut voir l'entrée de la tour, comment elle est. C'est une catastrophe, il n'y a pas d'entrée. Enfin, il y a une entrée, mais il faut voir, vous montez sur un terrain vague pour entrer dans la tour. C'est un scandale. C'est un scandale. Les personnes âgées qui montent là, qui rentrent par la tour, elles risquent de tomber. Ah, c'est une catastrophe ambulante. Hein. Moi, j'y vais tous les jours, ma fille, elle habite là-bas. Donc, je vois comment c'est une catastrophe ambulante. C'est un scandale. Oui, ils ont fait le bâtiment, mais ils n'ont pas fait l'entrée ou des escaliers, ne serait-ce que carreler quelque chose. Rien n'est fait. C'est fait, mais à la one again, c'est fait n'importe comment. C'est fait n'importe comment.
Moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est qu'ils ont enlevé tous les lieux de vie du quartier. Les habitants, ils ne peuvent plus descendre et s'asseoir. Ils ne peuvent plus descendre et discuter. Il reste qui ? Il reste qui en bas des blocs ?
Personne.
Il reste personne. Qui s'approprie les... C'est qui s'approprie les lieux ? C'est les jeunes. C'est les réseaux. C'est la violence. Et après, ils se plaignent. Donc, comment vous voulez qu'on s'approprie notre quartier ? Si on ne peut pas rester dedans, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pas qu'on ne veut pas ou qu'on chipote. On ne chipote pas. C'est dangereux quand il y a des tas de pierres, des tas de terre, il y a des machines, il y a des parpaings, il y a des palettes. On ne peut pas laisser les enfants jouer dans ça. Il n'y a plus rien. Et maintenant, ils construisent des parkings. Donc, où on va jouer, où on va s'asseoir, où est-ce qu'on peut s'approprier les lieux, on ne peut plus. Les seuls lieux qui étaient dispo, ben, les réseaux, c'est les réseaux. Voilà, maintenant c'est le réseau, c'est où les chantiers ou le réseau.
Par rapport à ce que tu m'as dit ou par rapport au parking, il y a le fameux bâtiment H qui a été démoli. Est-ce que ça va être un parking?
Ben oui,
ouais,
été
démoli, ouais.
Apparemment, ça sera une place.
Ça sera une place.
En face de la gare.
Ouais. Ouais,
apparemment, ça sera une place.
Ça rentre dans le groupe de veille, ça.
Ça rentre dans le groupe de veille, je ne sais pas, parce qu'il faudrait qu'il y ait un travail de concertation pour que le groupe de veille puisse participer, en fait, à ce travail de concertation.
D'accord.
Et on en attente. Enfin, nous, le centre social, on a été sollicité.
D'accord.
Pour la mise en place d'un travail en concertation qui a été reporté. On est en attente.
D'accord. Donc, alors, voilà. On ne sait pas vraiment ce qu'il va y avoir. Alors.
Ben, dans les place. Plans qu'ils ont prévus, et voilà, je reste vigilante dans ce que je dis, parce que ça change tout le temps, c'est prévu une place.
D'accord.
Après, ce qu'il va y avoir, on verra.
La problématique dans les travaux, c'est que déjà au niveau de l'aile 2, on dirait qu'on a un mur de Berlin devant chez nous. Ouais. C'est une catastrophe ambulante, c'est affreux. Déjà de une. De deux, au niveau de l'ancienne école qui a été détruite, au niveau du centre social Agora, on a une montagne maintenant. On a une montagne de terre, voilà, qui a fleuri, qui a fait... voilà. Tout ça, toutes ces problématiques font que quand ils détruisent quelque chose, ils ne ramassent pas, ils ne nettoient pas, ils ne laissent pas leur place propre. Tout ça, ça laisse des endroits pour déjà les toxicomanes de se cacher, de se piquer, de jeter les seringues comme ça. Il y a des enfants qui sont à la rue, qui vont jouer là, c'est un danger. Je veux dire, il faut prendre conscience que oui, il y a des travaux qui sont faits, mais derrière, il n'y a pas des travaux qui sont faits convenablement, dans le sens où quand on fait quelque chose, on le fait correctement. Ce n'est pas ramassé, il y a toujours des détritus, des déblaiements qui ne sont pas ramassés, qui laissent aux autres la place à faire des dégâts. Et ça, c'est une problématique qu'on doit traiter aussi. Qu'on doit traiter.
Dans le groupe de veille.
Qui rentre dans le groupe de veille, bien entendu. On s'occupe de toutes les problématiques qui sont dans le quartier. Donc, ça va nous concerner. Ça nous concerne.
Bientôt, hein,
donc, bien sûr. Donc, on va s'en occuper et à voir si on l'a pas déjà signalé, puisque déjà, quand on a reçu la préfète, la déléguée du préfet, pour avoir l'accès à l'Agora, elles ont vu. Hein. Elles ont vu la catastrophe ambulante que c'est. Donc, je pense qu'elles en sont conscientes.
C'était même pas éclairé, je me souviens.
Oui. C'est une problématique. Voilà, c'est pas éclairé. Donc, c'est vraiment un problème.
Alia, tu veux prendre la parole ?
Oui, c'était par rapport à l'accès au centre social. Donc, il faut savoir qu'on accueille des enfants jusqu'à pratiquement 20 heures, qu'en hiver, il fait nuit, et que c'est vrai qu'on a eu ce problème d'éclairage. Et c'est grâce au groupe de veille, justement, qui s'est mobilisé, qu'on a pu avoir un éclairage sur le chemin. Mais par contre, on a toujours des gros trous, des détritus, malgré qu'on a mis en place une chaîne pour pas que les gens puissent déposer leurs déchets, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que les travaux, c'est un gros problème. Hein. Dans les, enfin, nous, le centre social, on est encerclé de travaux. Et pour accéder au centre social, c'est très compliqué. Et les gens de l'extérieur qui viennent pour venir au centre social, ils se perdent parce que les travaux, c'est pas indiqué. Voilà quoi, le circuit, le chemin, il fait que changer. Et c'est vrai que c'est très compliqué.
Dans le groupe de veille aussi, hein, c'est intéressant ce que tu dis, dernière, parce qu'il va y avoir une moitié de lotissement qui va être démoli bientôt.
Oui.
Quand ?
Eh bien, on attend.
Ouais, c'est bientôt, je crois que c'est l'année 2019.
Ben, ils ont commencé à déloger déjà les habitants. Je ne sais pas s'ils ont terminé le délogement, je ne sais pas du
combien
tout.
C'est combien de lots d'habitants, je crois que c'est...
Je crois que c'est ça, c'est...
Deux blocs, hein.
Je crois que c'est plus.
Deux bâtiments, ouais. Et... Le problème qui se pose, c'est que la voirie de l'autre côté, est-ce que les gens vont pouvoir passer ou pas ?
Du côté de l'Agora ?
Eh oui.
Oui, ils pourront passer.
D'accord.
Ils pourront passer... du côté de l'école, je ne sais pas.
En fait, ils vont détruire les deux bâtiments pour pouvoir construire une entrée pour avoir accès au centre social Agora. Voilà. Donc, bon, ce n'est pas encore fait. on attend comment ça va se faire, dans quelles conditions ça va se faire, dans quelles conditions va travailler le centre social. Ça, ce sont des questions qu'on se pose. Ils vont faire l'entrée de l'autre côté, ils vont faire l'entrée devant la gare.
D'accord.
Voilà. Donc, comment ça va se faire, dans quelles conditions ça va se faire, dans quelles conditions le centre social va travailler, dans quelles conditions seront reçus les enfants, dans quelles conditions vont vivre les habitants par rapport à ça.
Et l'école, aussi.
Exactement. C'est
l'école qui est juste en face du bâtiment. Donc, moi, je me demande vraiment... De toute façon, dans tous les cas, ils ne peuvent pas nous dire que ça va déranger personne. Ça va déranger ou d'un côté ou de l'autre. Donc, ou l'agora ou l'école. Après, normalement, eux, ils disent non, mais ce n'est pas possible.
Le pire, c'est que si on se plaint, on risque de nous dire « mais soyez contents, déjà, on fait les travaux ».
C'est pour cela que le groupe de veille, le pouvoir d'agir des habitants, on a le pouvoir d'agir. Voilà. Comme je dis, c'est important que les habitants soient là, mobilisés, pouvoir d'agir, pouvoir de dire éventuellement... C'est vrai qu'il y a des habitants qui m'interpellent, qui me disent on a offert un plateau de concertation à ces gens-là qui font partie des institutions, mais ils ne nous répondent pas. Mais c'est vrai que le groupe de veille sert à quelque chose. Moi, je trouve que c'est important. Voilà. On va parler sur l'école. Je reviens par rapport à l'école, par rapport à la thématique du groupe de veille. Qu'est-ce qui va avancer là par rapport à ce qui ne va pas? Est-ce qu'on va avoir des réponses?
L'instant, on n'a aucune certitude. J'ai fait le tour, moi, avec Madame Navarro, par exemple. Même la préfète, elle est informée. Et j'ai déjà fait le tour même avec elle et Jamila. Pour l'instant, on n'a aucune certitude.
D'accord.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils savent. Donc voilà, bon, ça ne les empêche pas de prendre l'air surpris à chaque fois qu'on leur redit, mais on n'a aucune certitude. On se pose des questions sur, par exemple, les travaux, la destruction du bâtiment qui va y avoir lieu, ça on se pose des questions, etc. Mais on ne sait pas du tout pour le préau, on ne sait rien du tout, parce que c'est vraiment
pour
les baies vitrées, pour les températures dans les classes, pour toutes les malfaçons, puisque c'est une école qui a été livrée neuve. Les malfaçons sur les boiseries, sur les portes qui se cassent, etc. Tout ça, on les a informés, ils notent à chaque fois. Chaque fois qu'il y a l'inspection d'académie, ça, ils notent. Il y a la déléguée du préfet, ils notent. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a personne qui nous a envoyé un mail ou qui nous a appelé, qui nous a dit c'est bon, ça va être fait. Pour l'instant, on n'a rien.
C'est pour cela que le groupe de veille est là, présent, pour essayer de
On peut être présent, le groupe de veille fait vraiment le maximum, on pourra toujours mieux faire. Mais après, quand on est face à des institutions qui se braquent ou qui nous prennent pour des imbéciles, c'est difficile d'avoir des gens sincères en face de soi, c'est difficile d'avancer. Hein.
Cela veut dire comme quoi le groupe de veille n'est pas vraiment...
On est mobilisé, on est efficace dans ce qu'on fait.
Il n'a pas vraiment le
pouvoir. On a le pouvoir, mais notre pouvoir, il sera toujours limité.
D'accord.
Quand ils sont venus là, par rapport à la fusillade, etc., ils étaient obligés. Les préfets, etc.
Ça a été médiatisé.
Donc là, c'est vraiment un tour de force qu'a fait le groupe de veille. Ils n'avaient pas le choix. sans, et grâce à cette vidéo, grâce ou à cause, mais c'est parce qu'il y a eu une vidéo et parce qu'on s'est mobilisé et ils étaient forcés de venir et de réagir.
Concrètement, le groupe de veille, il est officiel ou il est officiel? Il est vraiment officiel.
Bien sûr.
Des gens. Voilà, c'est bien ça sûr. Qui est important. C'est pour cela que j'en reviens par rapport à...
C'est pas un conseil citoyen.
Voilà, exactement.
Mais je pense, à l'heure d'aujourd'hui, moi, franchement, de ce que j'ai vu des conseils citoyens et de ce que je vois qu'on arrive à mener au groupe de veille, les préfets, délégués du préfet et les pouvoirs publics, ils nous donnent autant, voire plus...
Sur le groupe de veille.
Ouais, voilà. Voire plus d'importance et d'écoute sur le groupe de veille que sur le conseil citoyen. Je ne sais pas après ce qu'ils ont réussi à avoir le conseil citoyen, mais moi, ce que je vois de ce qu'on a pu avoir à la Busserine et sur le Grand Saint-Barthélemy, quand même, ce n'est pas tout le monde qui arrive à se faire entendre à ce niveau-là.
Mmh. On est mobilisé à 300%. Mmh. Et comment dire... pas toutes les... bon, nous, on a beaucoup parlé de la préfecture parce qu'on travaille en collaboration avec eux. Je veux dire, mais on a demandé à la préfecture de nous soutenir et parce qu'ils ont quand même un pouvoir sur... Ils peuvent avoir le pouvoir d'avoir une influence sur les autres institutions.
Ils font le suivi.
Qui, oui,
le suivi.
Oui, tout à fait. Donc, on les remercie, mais on leur a demandé de nous soutenir parce qu'ils ont un pouvoir sur les autres institutions. Ils ont un pouvoir de...
Bien sûr.
Un pouvoir d'influence sur les autres institutions. Donc, on leur a demandé, parce que les autres institutions ne nous soutiennent pas autant que la préfecture. Là, on a eu une fusillade il n'y a pas très longtemps. Mme Navarro a réagi tout de suite. Le lendemain matin, à 9h, on avait une cellule psychologique qui était mise en place. Donc, je veux dire, elle agit, elle se rend compte de l'ampleur du travail dans son territoire, mais elle est quand même réactive parce qu'elle sait qu'elle va travailler en collaboration avec nous. Donc, elle sait que nous, on la soutient, mais elle nous soutient aussi en échange. Et c'est pour ça qu'on arrive à travailler correctement avec elle. Après, avec les autres institutions, c'est peut-être un peu plus problématique. C'est là où on lui a demandé son soutien. Voilà. Et c'est là où nous, on a du pouvoir. On a le pouvoir de dénoncer, on a le pouvoir de faire des choses. Mais eux, ils ont encore plus de pouvoir. Normalement, c'est à eux de faire ça. Ils sont payés pour ça. Nous, on n'est pas payés. Nous, on est des bénévoles. Eux, ils sont payés pour ça. Donc, normalement, les autres institutions doivent faire leur travail. Et le problème, c'est que on est des quartiers populaires, on est traités de sans-dents, on est traités de... Voilà. Donc, à un moment donné, tout ça, ça a été médiatisé. Donc, c'est quand même une discrimination vis-à-vis des pauvres. Et voilà, c'est toujours cette problématique de discrimination, de stigmatisation dont on est victime et qui fait que on préfère s'occuper des quartiers villageois que de nous.
En tout cas, franchement, merci. Hein, franchement, c'est intéressant. Il ne faut pas oublier que le groupe de veille, voilà, il y a une prochaine réunion bientôt. On va se réunir autour de plusieurs thématiques et en choisir une et travailler là-dessus. Je pense que ça sera l'association L'œuf.
Je pense qu'on va continuer le travail autour de la crèche de l'œuf, déjà en priorité. D'accord. Et ensuite, bien sûr, on reste mobilisé sur les priorités du quartier.
Crèche de l'œuf et McDo.
Et McDo.
Voilà.
Et ensuite, il ne faut pas oublier l'école aussi, c'est important. Je trouve que c'est important.
Et ça, c'est aussi une priorité de toute façon. Ce sont nos enfants, notre Exactement. Avenir. Hein. C'est l'avenir de la France. Hein.
L'école, il y a l'APE, donc l'association de parents d'élèves. Et il y a aujourd'hui une nouvelle association qui a été créée, l'association Arc-en-Ciel.
Voilà, Arc-en-Ciel.
Donc avec Djamela Mostefa, moi-même et une autre habitante, D'accord. Amel, qui a pour but de travailler toujours en lien avec l'école et ses projets et de travailler toujours avec les préfets.
Un numéro de téléphone si on peut vous contacter?
Oui, le 06 15 29 87 46. C'est le numéro de Djamela, la
D'accord.
présidente.
D'accord.
Donc, travailler pour les enfants, les projets d'école et aider à les financer. Et à l'extérieur de l'école, on a le projet Pédibus, qui est un projet qui dure depuis 2 ans.
D'accord. Pédibus.
Voilà. Le Pédibus, ça a été impulsé par Djamela quand elle était à l'association de parents d'élèves.
D'accord.
Elle a maintenu le projet. C'est financé par la politique de la ville et... par la politique de la ville. C'est en fait, ce projet, il a été créé à la suite d'un drame, ça va, tout s'est bien terminé, mais
D'accord.
un accident.
D'accord.
Une enfant, justement, qui s'est fait renverser devant l'école. Et voilà, donc du coup, on a décidé de faire en sorte de sécuriser les alentours de l'école, puisque l'État ne voulait pas nous donner d'îlotier. Ça a été un problème parce que c'était par rapport aux travaux et aux camions qui passaient le matin. Mais bon, avec les parents d'élèves, on a fait un tour pendant un an. On faisait les passages piétons, etc. Et de là est né le projet Pédibus. Donc accompagner les enfants dans leur trajet, pour ceux qui viennent à pied, de chez eux à l'école, du mail jusqu'à la Busserine, pour l'instant. Picon, ça nous fait trop loin, donc on va rester sur quelque chose de plus petit. Et voilà, il n'y avait pas assez de parents. Mais ça, c'est toujours sur la base du bénévolat et dans le quartier. Donc essayer, là c'est un projet qui est en cours, qui va bientôt se finaliser, c'est avec des arrêts de bus, mais bon, c'est tout ça, ça se fait à pied, hein. Mais c'est des arrêts à des heures précises, et les arrêts, ça a été fabriqué par les parents, par les jeunes, par les habitants du quartier, donc c'est vraiment un travail, c'est vraiment un de ces pilotes à Marseille, hein. Ça n'a pas été fait encore, et c'est vraiment un travail avec les habitants, pour les habitants et leurs enfants, donc ça implique tout le monde, même les jeunes. Les jeunes de l'ADAP qui nous ont donné un coup de main, qui ont participé au projet. Donc, c'est vraiment un projet qui implique tout le monde.
D'accord. Ouais,
et voilà, tous les matins, on espère avoir les enfants, les accompagner et sécuriser leur trajet.
Ah oui, c'est génial.
Voilà,
c'est bien.
Surtout quand on voit les travaux et le danger, les dangers qu'il y a. Donc, exactement, c'est vraiment très, très important.
Je voulais juste préciser que dans ce projet, c'est surtout les jeunes du quartier, pas uniquement les jeunes de l'ADAP, mais aussi du centre social. Et du collectif jeune.
C'est important.
Donc voilà, bien sûr, je veux le souligner. Et donc voilà, tout le monde met la main à la pâte et on espère que
ça prouve, tu vois, le message que tu viens de dire, ça prouve que voilà, il est en partenariat. Et ça, c'est important. C'est important de
souligner. C'est la force de la Busserine.
Voilà, exactement.
Je pense que c'est une des forces de la Busserine. On voit pas ça partout. Hein, que du plus vieux au plus jeune, tout le monde s'implique dans ce genre de choses.
Pour l'association Arc-en-Ciel.
Association Arc-en-Ciel, oui, donc nouvellement créée.
Numéro de téléphone 04 91 02 37 31. On demande au centre social Agora, on demande Djamila.
C'est ça.
Stéphane.
C'est ça.
Voilà. Hein, c'est bien.
Merci beaucoup.
Pas de quoi. Céline, merci beaucoup. Toujours aussi battante et franchement, chapeau.
On l'aime comme ça.
Ah ouais, exactement. Ne change pas. Et Rania, en tout cas, merci. On va continuer ensuite sur l'événement du 9 novembre jusqu'au 30 novembre concernant l'inauguration de François Véga, Odette Tarragonet et Jacques Marty qui va se dérouler ici dans le quartier de la Busserine. Je vais juste parler un petit peu de l'avenue de Patrick Chamoiseau et du 30, parce qu'on n'a pas vraiment tout consolidé encore sur la manifestation qui va se dérouler du 9 au 30. Voilà. Et je tiens à vous dire merci d'être là en tant que partenaire pour ce projet du 30 novembre, du 9 au 30 novembre.
C'est normal. Hein.
Voilà. Je parle du collectif, là. Je ne parle pas du groupe de veille. Je parle du collectif du Grand Saint-Barthélemy.
De
voilà.
Des acteurs.
Voilà, des acteurs. Hein. Je tiens à vous remercier. Juste pour vous dire comme quoi, le 9 novembre, il y a une rencontre avec Patrick Chamoiseau, un grand écrivain qui va venir à la bibliothèque du Merlan. Le projet, il a été créé par le comité Maméga depuis des années, depuis sa création. Et les ateliers de nom de rue ont été créés en 90-92, si je ne me trompe pas. Et grâce à ces ateliers de nom de rue, ont permis à créer des noms de rue comme la rue Mahboubitir, qui a été créée en 2005. Voilà. Et en 2003, deux ans avant, on avait fait une manifestation au département, au Conseil Général. On a mobilisé pratiquement 2000 personnes autour d'un livre on a missionné Karim Aberich en tant que sociologue, nous le comité Maméga, qui a écrit ce livre-là. Et avec deux photographes qui s'appellent Frédéric Povarel et Bernard Ribé, à qui on tient à les remercier. Et le 9 novembre, Patrick Chamoiseau sera à la bibliothèque du Merlan à partir de 18h30. Et la thématique, ça sera sur le Grand Saint-Barthélemy au cœur du Tour du Monde. Voilà. Et on aura la chance d'avoir aussi Karima Berich qui sera présente avec le livre qu'on lui a permis de faire qui s'appelle Mémoire d'homme, mémoire de quartier, Monsieur Thier, un marchand de biens, qu'on a fait sur 2000 exemplaires et qu'elle sera là. Faire des passages de lecture, tout ça, faire le lien entre, entre ces quartiers-là et l'avenue de Vatik-Samazou pour voir un petit peu quel reflet et qu'il a vis-à-vis de ces quartiers-là, voilà, de ce territoire-là. Je trouve que c'est important. Et avec l'ensemble des habitants, vous serez la bienvenue. Et je sais que les partenaires seront là aussi, comme vous, vous êtes là, je veux dire, il n'y aura pas de problème.
Sachant qu'il y a des figures emblématiques du quartier qui ont disparu, ouais, comme François Zéga, voilà, Jacques Marty, voilà. Odette Tarragonnet, ouais, Monsieur Maboubitir, justement. Ouais. Et ce sont des grandes figures du quartier. Ouais. Voilà, on a perdu Jacques Marty il n'y a pas longtemps.
C'est ça.
Et qu'on regrette d'ailleurs parce que c'était quelqu'un de très, 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 très bien. C'est quelqu'un qui a montré une solidarité de fou. C'était un prêtre, en fait, qui a prêté son lieu de culte aux musulmans à l'époque, quand ils n'avaient pas de lieu de culte. Et je trouve que c'est une figure de solidarité, c'est un emblème de solidarité qu'il a montré. Et sans jamais dire « je suis prêtre », sans jamais prêcher sa religion ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui était un homme de bien aussi.
Et c'est même investi au conseil d'administration pour créer la structure de la mosquée.
Oui. Ouais, mais il a été depuis le départ, il a été aussi sur la création de la SCQB, ouais, le centre social Agora, il a toujours été là. Enfin, je veux dire, c'était un homme, voilà, c'était un très très grand militant. Et pourtant, c'était un prêtre, quoi. Pour vous dire que les gens dans le quartier, Odette Tarragonnet, c'est celle qui a fait l'association de locataires, qui s'est battue pour les habitants. Enfin, je veux dire, c'était une figure aussi emblématique. François Zéga, c'était pour l'alphabétisation, pour les gens qui savaient pas lire. Enfin, je veux dire, l'illettrisme, c'était des personnes qui étaient vraiment importantes dans le quartier. Nous, on suit le cours, ouais, mais ce sont des personnes qui ont fait ça dans les années depuis les années 60, quoi.
C'est la
richesse de notre quartier. Et on poursuit tout ça. Ces personnes-là, on les oublie pas. On veut pas les oublier. On veut se rappeler d'eux. Et justement, on fait des choses pour se rappeler d'eux parce que justement, la Busserine a une histoire. C'est ça qui est important.
C'est pour cela que du 9 novembre après au 30 novembre, il va y avoir des expositions un petit peu de partout dans le quartier, dans le centre social Agora, le comité Maméga, l'association Sheba, et autour des effets sonores, de paroles d'habitants. Ça, c'est important de soulever, de témoignages, de quartiers, tout ça. Et ça, ça va être intéressant.
Ça va permettre, je pense, de rappeler à tout le monde d'où on vient.
Voilà.
Et de ressouder un peu à travers ces beaux moments et ces belles anecdotes tout le monde, toutes les associations, puisque avec tous ces travaux et toutes les difficultés qu'on a connues ces dernières années, tout le monde est un peu occupé à ses propres problèmes, malheureusement.
Exactement, c'est ça.
Hein, ses problèmes de financement, ses problèmes d'argent, etc. Donc je pense que ça va être une belle manière de rapprocher tout le monde et que la mémoire, elle reprenne un peu le dessus.
Exactement,
ça fait pas de mal. Ouais, ça fait pas de mal, même pour nous, de se rappeler tout ça, quoi.
C'est pour ça que c'est important, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, travailler en partenariat, voilà, et qu'il y ait une transition pour les nouvelles générations, voilà, comme les jeunes d'Alafou, comme d'autres jeunes.
Collectif jeune, quand on voit ce qu'ils ont fait pour les élections.
Exactement.
Moi, j'ai jamais vu ni entendu ça. Des jeunes de 18 ans, 19 ans qui poussent les gens à voter, qui poussent les gens à s'inscrire sur les listes. C'est beau, ça.
Ouais, ouais.
C'est la jeunesse, c'est la vraie jeunesse des quartiers. Il
n'y
a pas que les réseaux, il n'y a pas que les problèmes, et il y a des belles choses qui en ressortent. Et ça, c'est une belle chose, c'est beau. Ce que ça représente, c'est beau.
C'est important de...
On a l'impression, y en a qui ont l'impression qu'on veut nous tuer, en fait. Qu'on veut nous tuer, on veut nous enterrer. On veut nous enterrer. Le problème, c'est qu'on est des graines. Quand on nous enterre, on pousse. Et c'est symbolique, mais c'est la vérité. Et plus on va essayer de nous enterrer, et plus on va se réveiller et on va se révolter. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est une forme de révolte que le groupe de veille, dans le sens où les institutions n'agissent pas, et que nous, on leur montre qu'on veut que vous agissiez, on veut que vous fassiez votre boulot, on veut, faites votre boulot. Donc voilà, et c'est ça en fait, c'est une révolte. Et on veut nous enterrer, on veut nous supprimer tout ce qu'on a. Et nous, on lutte pour ça. C'est pour ça que je dis depuis le départ qu'on nous a créé. C'est comme si on nous avait créé résistants en fait, parce qu'on devient de plus en plus fort.
C'est toute une histoire. Hein,
bien sûr, c'est toute une histoire. Mais là, le quartier est en train de se renforcer encore plus. Ouais. Parce qu'au vu des problématiques, le groupe de veille s'agrandit. Avant, on était 10 personnes. Maintenant, on en est 30. Combien on sera dans 2 mois ? on en sera peut-être 60. Donc, je veux dire, on est en train de grossir et on est en train de se fortifier. C'est là où est le danger en même temps. Et parce que, comme je le dis depuis le départ, l'union fait la force. Voilà.
Et c'est pour ça que je reviens par rapport à cette manifestation. La manifestation est tout au long du 9 novembre jusqu'au 30. Il va y avoir des expos, comme je l'ai dit, avec des effets de témoignages d'habitants qui, grâce à les échos de la Busserine, ont fait des coups de projecteur sur fond vert, sur Picon, sur les Flamands. Il y aura des témoignages d'habitants. Et ça, c'est important de soulever. Et ça, moi, je trouve, comme tu l'as dit, Fadel, tout à l'heure, de parler de la mémoire. Voilà.
C'est le quartier avant les travaux.
Exactement.
Avant tout ça, là, avant, parce que les travaux, c'était ça. Je pense que dans quelques années, 5 ans, 6 ans, 10 ans, ça sera bien de vivre par ici. Mais maintenant, pour l'instant, le seul effet que ça a sur nous, c'est que chacun est dans sa merde.
Ouais, mais c'est
chaque secteur a ses problèmes de travaux, a ses problèmes de ci, ses problèmes de ça. Et on est tous dispatchés, tous séparés.
C'est ça.
Donc, c'est le seul effet que ça a sur nous, les travaux. Il n'y a rien de bénéfique pour l'instant. Il y a toujours les mêmes trous par terre. Il y a toujours la même violence et la même précarité.
C'est pour cela que
donc, ça n'a rien changé. Dans 10 ans, ça sera peut-être beau et bien.
Et c'est pour ça que le combat continue.
Le combat continue, comme il a été initié par tous ces gens, la mémoire et l'histoire de la Busserine. Et puis, on continue tant qu'on peut.
Exactement.
Voilà.
Non, mais c'est bien, c'est un bon message. Et c'est important. Et ce que tu dis, c'est la réalité, en plus. C'est important. Ouais. Et j'en reviens toujours par rapport à ça. C'est important. C'est qu'après cette expo... qui sera un petit peu de partout, hein, comme on vient de dire. Peut-être qu'il y aura, on est en train de travailler aussi sur. Il y aura le 29 novembre, parole de. Parle-moi de ton quartier, avec des témoignages des gens qui ont habité le quartier et qui parlaient du quartier d'avant. Voilà. Et ça sera au centre social Flamaris. En principe, ça sera là-bas. Oui, non, c'est sûr, c'est acté. Mais on est en train de travailler dessus. C'est voilà, le 30 de consolider ce projet-là. Et le 30 novembre, à 10h, d'abord, on va déambuler. On vous en dira ça un peu plus lors de la prochaine émission de radio. On va déambuler d'abord sur les rues où elles sont situées, comme la rue Jacques-Marty. On va commencer d'abord de la rue Mahbubichi, après on descend, on va aller à celle de Jacques Marty, après on va finir à celle de Odette Tarragonnet, et après on finit à celle de François Zéga. Et après François Zéga, on sera devant le stade avec les trois panneaux, et c'est là qu'on va inaugurer les trois rues. Voilà, ce jour-là, en même temps. Ça sera un grand hommage pour ces trois personnes qui ont marqué l'histoire. Franchement, ça sera avec... il y aura la parole d'Anne-Marie Tagawa, il y aura la parole de Karima Berich. Voilà, on est en train de travailler dessus. Et...
Des personnes qui ont travaillé sur le quartier pendant plus de 20 ans.
Voilà, exactement.
Dire, vraiment,
voilà, exactement. Ouais. Je tiens à les remercier déjà. Et je tiens à vous remercier à vous aussi en tant que partenaire du collectif du Grand Saint-Barthélemy. Hein. Je mets à part le groupe de veille qui n'a rien à voir. Hein. Là, c'est autre chose, c'est pas pareil. Ça, c'est important. Je reformule comme quoi du 9 au 30 novembre. Voilà, le 9 novembre, je vous invite à venir à la Bibliothèque du Merlan. Je tiens à remercier le Théâtre du Merlan et la Bibliothèque du Merlan de nous recevoir là-bas, parce qu'ils sont partenaires aussi, Francesca et Sylvie Ferry, pour nous recevoir déjà à la Bibliothèque du Merlan. C'est bien parce que ça permettra aussi de délocaliser les habitants ici. De découvrir comme quoi il se passe d'autres choses. C'est vrai qu'ils se déplacent, attention, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ne se déplacent pas souvent, et cela permettra de mieux, tu vois. Voilà, avec il y aura un débat aussi, il y aura un débat, et ça c'est avec Patrick Chamoiseau. Voilà, il y aura un orateur qui sera là pour passer la parole, et ça c'est moi je trouve que c'est important, par rapport au livre qu'il a écrit. Et on remercie le MUCEM. Le MUCEM, parce que le MUCEM, c'est grâce au MUCEM que Patrick Chamoiseau sera là. Et Patrick Chamoiseau, c'est un grand écrivain, c'est pas n'importe qui. C'est pour ça que. On vous a dit pas plus. En tout cas, et autour d'une exposition, comme je vous l'ai dit, autour d'une exposition. Et le 30 novembre, l'inauguration des trois rues, Jacques Marty, Odette Aragonais et François Zéga, à partir de 11h, là-bas, au stade de la Busserine. Et je vous invite d'abord à venir avant, à 10h, pour déambuler les rues où vont être situées les plaques de nom de rue de ces trois personnages qui ont marqué l'histoire du Grand Saint-Barthélemy. Exactement. On va faire une pause musicale, Sidi. On va faire une pause musicale. Et juste avant de faire une pause musicale, merci Fadela.
Merci à toi de m'avoir invité.
Pour l'association, comme j'ai dit.
L'association Arc-en-Ciel. Voilà,
04 91 02 37 31 au Centre Social Agora. Et on demande Djamila.
On demande Djamila et voilà. Sinon vous aurez son numéro.
D'accord. Voilà. Céline, merci beaucoup.
De rien.
Un dernier mot
J'ai tout dit. Je pense que ça y est. Pour une fois que j'ai plus rien à dire.
Chapeau. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Il n'y a pas de problème.
Rania, merci.
Merci à toi.
Et je n'ai pas un dernier mot.
Rendez-vous le 9 novembre.
D'accord. Merci. On fait une pause musicale. On se retrouve après. Toujours en direct, les Échos de la Busserine, tous les derniers jeudis du mois. Aujourd'hui, groupe de veille et pouvoir d'agir des habitants. Vous avez dû sûrement être intéressé par rapport à ce débat qu'il y a eu dans le cadre du groupe de veille. C'était vachement intéressant. Juste avant de partir, Fadela, tu voulais prendre la parole ?
Oui, oui j'ai oublié une information très très importante. L'association Arc-en-Ciel, donc l'association dont on parlait tout à l'heure, qui travaille pour les enfants et les habitants du quartier, organise un repas solidaire le 13 novembre au centre social L'Agora à partir de midi. Je vous donne le numéro de téléphone pour si vous voulez réserver à plusieurs. Donc le 06 15 29 87 46. Le 06 15 29 87 46. C'est un repas pour, comme je disais tout à l'heure, financer les sorties scolaires ou les activités au quartier. Et puis, si vous n'êtes pas de la Busserine, je vous invite à venir et vous serez tous les bienvenus. Le prix du repas est à 6 euros. Ça sera un couscous. Donc, bienvenue à vous. Voilà, merci beaucoup et bonne fin d'émission.
Merci Fadela, merci. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci. À bientôt, au revoir. Toujours dans le cadre de la communication, c'est important, c'est qu'on va parler un petit peu des activités. Il y a l'association Sheba qui a mis besoin, si vous avez besoin d'un accès Internet, d'ordinateur, ils ont créé la maison digitale de Sheba. Elle est ouverte toutes les après-midi à partir de 13h30. Voilà, et vous rencontrez les médiatrices numériques. Un numéro de téléphone, le 04 91 02 46 96. Je répète, 04 91 02 46 96. Voilà, c'est un lieu où vous pouvez venir. L'association Sheba, c'est une association de femmes qui font des ateliers d'alphabétisation. Même les hommes peuvent venir, hein, y a pas de souci. Voilà, la maison digitale de Sheba, voilà. Elle est ouverte toutes les après-midi à partir de 13h30. Voilà. Les médiatrices vous rencontreront et vous expliqueront comment ça se déroule. Voilà. Concernant, toujours dans le cadre de la venue de Patrick Chamazo, concernant les expos seront mis en place à partir du 8 novembre. Voilà. Et à partir du 9 novembre, vous commencez à pouvoir venir voir les expos qui concernent l'histoire du Grand Saint-Barthélemy, voilà, avec pas mal de sons sonores, de témoignages d'habitants qui vont parler du quartier, qui vont parler un petit peu de l'engagement militant, de comment ils se sont engagés dans leur quartier concernant tout ce qui touche leur vie quotidienne de proximité. Et ça, c'est important, voilà. En tout cas, je reformule un petit peu la venue de Patrick Chamazo. Le vendredi 9 novembre, à partir de 18h30, voilà, à la bibliothèque du Merlan. Le projet est porté par le comité Maméga. Voilà, et on tient à remercier le théâtre du Merlan et la bibliothèque du Merlan d'être partenaires et de nous avoir ouvert leurs portes. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, il y aura une exposition au Centre Social Agora, à l'association Sheba et au comité Maméga, et avec des effets sonores, de témoignages d'habitants. Voilà. Et le 30 novembre, l'inauguration, c'est à partir de 10h, déjà faire une déambulation des rues où vont être situées les plaques. Voilà. Et cela permettra de voir un petit peu où seront mises les plaques de noms de rue. Et ensuite, à 11h, devant le stade de la Busserine. Et c'est là, avec des discours des élus et des gens invités, ils prendront la parole et on va inaugurer ces trois rues en même temps. À 11h devant le stade à Madagembe, à la Busserine, à côté de l'école de la Busserine. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés tout au long de cette émission. Je vous redonne le site du Vivre Ensemble du Grand Saint-Barthélemy, c'est le vivreensemble.org. Voilà, vivreensemble.org. Vous cliquez, vous allez voir un petit peu le travail qu'on fait dans le comité Maméga avec l'ensemble des partenaires du Grand Saint-Barthélemy. Je tiens à remercier le collectif du Grand Saint-Barthélemy de pouvoir participer au projet de l'inauguration de nom de rue qui va se dérouler le 30. Voilà. Et en tout cas, merci à tous et à toutes. Et je vous donne un numéro de téléphone aussi, éventuellement, si vous voulez nous contacter, au 09 54 38 87 44. Je répète, au 09 54 38 87 44 au comité Maméga. Voilà, et je tiens à remercier Sidi, toujours fidèle au poste, et d'être présent, et grâce à lui, on a la chance de passer de bonnes émissions en direct, et merci beaucoup Sidi. Voilà, et en tout cas, merci à toutes et à tous, et on se retrouve le mois prochain.